Bien, eh bien, nous enchaînons avec la deuxième table ronde, avec un nombre de des participants nombreux et de milieux, qui viennent d'horizons assez différents finalement. Donc, puisque nous avons deux personnes qui viennent de la ville de Versailles, Monsieur Étienne Desmet, qui est le directeur général de la ville, et Marie-Françoise Rose, qui est donc directrice du réseau des bibliothèques de Versailles. De l'autre côté, à l'autre extrémité, Jean-Pierre Bouguier, qui est le conseiller livre pour la région Centre, Georges Perrin, inspection générale, et une représentante du privé, Madame Sandrine Rioux-Oniela, qui donc est consultante à l'agence ABCD Culture. Alors, ces différents participants ont un point en commun. Ils viennent tous de réaliser une enquête. En collectant des données statistiques, des données nationales et des données aussi qu'ils ont collectées auprès des acteurs de leur région, de leur territoire. Donc, j'ai pensé dans un premier temps qu'on pourrait faire parce que j'aimerais bien que ce soit quand même une table ronde, pas une succession d'interventions. Et donc, j'ai proposé aux différents intervenants, dans un premier temps, de présenter rapidement leur démarche. Pourquoi ont-ils fait ces enquêtes ou pourquoi leur a-t-on demandé, puisque dans certains cas, c'est... ça ne fait pas partie de leurs activités habituelles, alors que dans d'autres cas, je pense en particulier à Madame Rioux-Oniela et à Georges Perrin, ça fait partie de leur quotidien. Donc, ils pourront choisir un exemple récent. Voilà. Pourquoi cette enquête? Comment s'en sont-ils pris? Quel type de données ont-ils essayé de collecter? Et puisqu'ils arrivent tous au bout de leur démarche, quelle exploitation ils comptent en faire? J'ai pensé qu'on pourrait commencer par la ville de Versailles, qui opportunément se trouve à ma gauche et à la main sur l'ordinateur. Et donc, c'est la ville de Versailles nous offre donc un exemple d'une ville qui a commandé à ses services une enquête, un état des lieux de la lecture publique, qui a été réalisé en interne, sans appel à des consultant extérieur. La première question que je vous pose, donc, c'est pourquoi avez-vous lancé ce projet?
Écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je peux dérouler la présentation? Je vais être très rapide parce les réponses sont dans le déroulé. Pourquoi, en fait, il y a six grandes raisons au déploiement de cette étude qui a vu, en fait, l'origine. On va dire, il y a deux points. D'abord, quand j'ai pris mes fonctions il y a à peu près un an, Marie-Françoise Rose m'a fait faire le tour du réseau de bibliothèques. Nous avons 10 établissements qui dépendent de la ville de Versailles, la bibliothèque centrale, qui est patrimonial, et puis 10 bibliothèques annexes. Donc là, on s'est dit, c'est vrai, on a un réseau qui est quand même très dense, est-ce qu'on peut l'optimiser? Et quelques semaines après, nous avons rencontré, lors des entretiens budgétaires, puisque vous savez que le rythme budgétaire, c'est en général à la rentrée en septembre, nous rencontrons les adjoints en charge des finances, en charge de la culture, et c'est là que nous avons eu le feu vert pour lancer une étude sur le réseau de bibliothèques, sur les équipements, sur les services. Nous étions inquiets, bien sûr, de la baisse de la fréquentation et on voulait, en fait, aller au-delà de simplement cette baisse de fréquentation des prêts. Alors, l'idée, c'était bien sûr de voir comment on pouvait articuler mieux la bibliothèque centrale, mais c'était aussi la bibliothèque centrale et le réseau, et de voir aussi comment, au sein de la direction des affaires culturelles, le réseau des bibliothèques pouvait jouer un rôle plein d'équipements culturels. C'est-à-dire un relais du rayonnement culturel de la ville. Lors de notre étude, nous sommes allés notamment à Versailles et on s'est rendu compte, en rencontrant notre collègue Monsieur Eboli, que c'était une problématique vraiment centrale à Marseille. J'ai dit Versailles, pardon. Alors on est allé un petit peu plus au sud, excusez-moi. En rencontrant notre collègue de Marseille, qui est complètement impliqué dans le projet capitale européenne de la culture, on s'est rendu compte que les bibliothèques pouvaient avoir un rôle éminent dans cette diffusion et cette opération culturelle, mais on va dire d'une manière ponctuelle, mais aussi sur le temps. Alors après, on a d'autres enjeux qui sont spécifiques à la ville de Versailles, des enjeux de sécurité des équipements, d'accessibilité au PMR, bien sûr des enjeux budgétaires, mais ça, je crois que toutes les collectivités et l'État est confronté au même défi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'investissement? Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de budget? Alors après, en termes de méthodologie, on a été extrêmement dense. En fait, moi j'allais dire, on a commencé par mettre en place un comité de pilotage. D'abord, ça paraît tout simple, mais c'est extrêmement important d'associer les élus, notamment l'élu en matière des élus en matière de culture et de budget, et puis un certain nombre de services, parce que nous avons décidé de prendre ce problème, cette étude, de manière complètement transversale, c'est-à-dire on a associé le contrôle de gestion, on a un service observatoire, qui est animé, alors on a la chance, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait appel à des consultants extérieurs, c'est un ancien de chez BDA, une grosse société d'études, qui dirige ce service et qui a de vraies compétences en marketing et analyse études de marché. Et puis, les services, bien sûr, de Marie-Françoise Rose. Alors, on a ce comité de pilotage se réunissait toutes les 6 semaines environ, et on a décidé de collecter différents types de données. D'abord des données quantitatives, et puis des données qualitatives. Alors, les données quantitatives, principalement émanant du réseau de bibliothèques, on pourrait tout à fait dire, et là je reprendrai ce que mentionnaient certains membres de la table ronde précédente, c'est que c'est pas toujours facile finalement de bien structurer les remontées d'informations chiffrées en interne, et ça on a sûrement des progrès à faire sur le domaine. En matière financière, là c'était plus facile, le contrôle de gestion là était beaucoup plus clair que nous l'étions du côté des affaires culturelles. Et puis qualitative, alors on a fait un certain nombre d'opérations qui étaient intéressantes, des tables rondes avec nos bibliothécaires en interne. C'est parce qu'on souhaitait absolument associer l'ensemble de l'équipe à ce projet, qui est un vrai projet d'équipement. Et puis, nous sommes allés aussi faire du benchmark, relever les meilleures pratiques. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure notre collègue de Marseille, mais nous sommes allés voir, bien sûr, d'autres villes qu'on estimait, à peu près dans notre... confrontés aux mêmes problématiques, avec une partie patrimoniale et une partie aussi réseau, avec aussi des questions sur est-ce que les bibliothèques doivent rester communales ou qu'est-ce qui doit passer du côté intercommunal, puisque la Versailles est intégrée dans une communauté d'agglomération avec 11-12 communes qui sont autour de la ville. Voilà. Donc, alors de cela, on pourrait revenir, on pourra répondre bien sûr à vos questions. Un certain nombre, bien sûr, de conclusions, mais sur lesquelles je vais passer assez rapidement, parce que sinon on monopoliserait la parole. Des éléments diagnostiques de contexte à Versailles. Donc, on a croisé vraiment des données générales de l'observatoire à celles des bibliothèques. En croisant opportunités, contraintes, et puis aussi en analysant ce qui sortait du champ des bibliothèques municipales, puisqu'on a en face de nous ou à côté de nous un réseau d'associations qui sont assez intéressantes. Et puis on a aussi autour de nous 2 ou 3 communes qui ont développé des médiathèques, ce qui change, ce qui bouleverse aussi la donne en matière de lecture publique et on pourrait dire en champ concurrentiel si on était dans le domaine privé. Mais c'est vrai que pour certains quartiers, des Versaillais peuvent aller maintenant facilement au Chesnay, c'est la ville juste à côté, parce que c'est très pratique d'accès et que l'équipement est très attractif, très neuf, très, très agréable aussi à utiliser. Alors, on a utilisé aussi le système d'information géographique. Il se trouve que notre observatoire de données est intégré dans le SIG. Donc, vous voyez, c'est là aussi l'intérêt d'avoir croisé ces deux services. Et ce qui nous permet d'avoir une étude, alors là, assez fine, vous voyez, des grands quartiers de Versailles. Alors, en jaune, vous avez les bibliothèques associatives sur la ville et puis sur les communes qui sont proches. En bleu, ce sont nos bibliothèques et nos réseaux de bibliothèques. En rouge ou rose, je ne sais pas si selon vos yeux, ce sont des bibliothèques dites institutionnelles. Et puis, vous avez des triangles verts, ce sont les nouvelles bibliothèques médiathèques. Hein, on a au nord le Chênay, à l'est Viroflay, Vélizy-Villacoublay, puis plus au sud Guyancourt. Donc ce sont des éléments importants pour nous, vous voyez, sur notre réflexion sur le réseau. D'abord savoir si on est saturé aujourd'hui, est-ce qu'on a saturé l'offre en matière de bibliothèques sur Versailles. Et puis, question qu'on se pose naturellement, si on est amené à supprimer un ou deux équipements, est-ce qu'on a des possibilités de relais, soit sur les bibliothèques institutionnelles, soit sur des réseaux associatifs? Voilà les questions qu'on se pose. Et vous voyez, on se les pose vraiment au fur et à mesure de l'étude, ce qui montre que c'est pas une étude simplement pour dire ben, « ça y est, on a fait une étude », mais c'est vraiment avec un objectif d'action. Après, on est allé encore plus fin, si vous me permettez, dans l'analyse de chaque équipement. On a passé au crible selon 6 critères chaque bibliothèque. Alors, il y a la surface, c'est ce que vous avez comme critère en haut, l'accessibilité au PMR, l'offre d'animation et de services spécifiques, le type d'offre documentaire, l'ouverture au public, c'est-à-dire les services, en quelque sorte, et le rapport du nombre de prêts par rapport aux heures d'ouverture. Et vous voyez, à partir de cela, on peut avoir des hexagones qui sont plus ou moins remplis. Alors, plus on est rempli, mieux ça vaut. Et moins on est rempli, là, ça pose vraiment question. Si vous voyez, aujourd'hui, quand on a fait ce tableau, on n'a vraiment pas aucun a priori. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Marie-Françoise Rose, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la bibliothèque de Clagny, par rapport à la bibliothèque des Petits Bois, qui est un quartier défavorisé de Versailles, de surcroît, où il semble que le maintien, voire le développement d'une bibliothèque annexe soit fondamental, d'abord parce qu'on voit qu'elle fonctionne bien, mais aussi parce que c'est un geste républicain dans un quartier de Versailles qui va mal. Car pour ceux qui ne savent pas, nous avons aussi des quartiers sensibles à Versailles. Voilà. C'est une ville tout à fait normale où il y a des bagarres après les matchs de l'Algérie, comme il y en a eu il y a 2 jours, avec intervention des forces de police. Alors, tout cela, vous voyez, nous amène à synthétiser au fur et à mesure nos données, à se dire est-ce que finalement on va pouvoir présenter à nos élus toutes les données qui seront nécessaires pour prendre rapidement des décisions. Nous sommes amenés à faire une présentation, je pense, d'ici une dizaine de jours au maire. Et c'est vrai que vous imaginez bien un maire, notamment d'une grosse ville, et président d'une aglo, et qui a aussi des responsabilités puisqu'il est président de la Cité de l'Architecture. Il a un emploi du temps très précis. Donc il faut qu'il ait peu d'éléments. On ne pourrait pas lui passer les 100 pages de notre étude, ce serait trop long. Donc on essaie de synthétiser, de donner un certain nombre d'orientations. Donc là, vous voyez, et les couleurs montrent bien, pour celles qui sont en bleu, c'est là où on va sûrement investir. Et les bibliothèques en orange, c'est là où on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut qu'on reconfigure? Est-ce qu'il faut fermer? Est-ce qu'il faut redéployer ailleurs? Ou est-ce qu'il faut... Alors, bien sûr, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut créer un autre équipement? Ou est-ce qu'on utilise, comme dans certaines communes ou intercommunalités, des réseaux de médiabus? Ce sont des questions, bien sûr, qu'on se pose en ce moment. Et sur la partie, vous voyez, la deuxième partie de l'étude, c'est-à-dire à partir du moment où on a fait cette compilation de chiffres, quelles recommandations on va pouvoir proposer, sachant, et là je répondrai tout à fait à notre modératrice, que notre objectif derrière cette étude, c'est bien sûr de produire des recommandations qu'on va pouvoir intégrer dès l'exercice budgétaire BP 2011, c'est-à-dire qu'on va y travailler dans quelques semaines. Alors, en guise de conclusion, l'intérêt de notre démarche, en tout cas qu'on a vu en interne, c'est que c'est une méthodologie qu'on a déjà déployée pour analyser les 8 maisons de quartier l'année dernière, lorsqu'il avait fallu revoir leur projet et demander un certain nombre de subventions à la caisse d'allocation familiale. On avait utilisé exactement le même dispositif. On l'a simplement enrichi du contrôle de gestion qui était encore en gestation l'année dernière. Et ça a été très important d'un point de vue du chiffrage. Pour nous, c'est un outil avant tout orienté décision. Ce ne sont pas des études pour se faire plaisir, mais vraiment pour être confortable dans les arbitrages. Et puis, j'allais dire, c'est peut-être l'élément qu'on a trouvé le plus intéressant, c'est qu'on a permis d'ouvrir les bibliothèques, de mobiliser les agents, de les impliquer dans un projet. Et c'est vrai que à partir du moment où les décisions politiques seront prises, on aura sûrement une équipe plus, comment dire, plus au fait de son métier, de ses évolutions et acteur du changement. Voilà.
Écoutez, je vous remercie de cet exposé extrêmement concis dans les temps et très riche.
Moi, je dirais simplement deux mots. Pour les personnels, la qualité des entretiens qui ont eu lieu avec les personnels, les responsables des annexes, mais aussi par thème, quel que soit par groupe, études et recherches, jeunesse, adultes, et quelle que soit la catégorie de personnel. Donc, ils ont tous été impliqués à un moment donné dans cette étude. Et puis, d'une façon plus... Donc, c'est un outil, cette étude va être un outil d'évaluation pour la ville. Et je dirais, comme moi, quand même, je pars dans quelques mois, puisque je m'arrête de travailler pour des questions d'âge.
Il paraît que les retraites, ça va changer.
Oui. Bon, je trouve que c'est un bon outil pour mon successeur, et c'est un bon outil d'évaluation pour la ville et pour les élus, pour demander des objectifs à mon successeur.
Voilà une conclusion un peu triste, mais bon. je ne sais pas si j'ai eu raison, mais à moins qu'il y ait des questions dans la salle tout de suite. Sinon, j'avais pensé qu'on pouvait continuer comme ça, faire rapidement des présentations, pour qu'ensuite faire un dialogue entre les différents intervenants et la salle. Donc, si on s'en tient à ce projet de départ, j'avais envie ensuite de demander à M. Bouguier s'il voulait nous expliquer lui aussi sa démarche.
Donc, on va peut-être montrer quelques...
Oui. Quand même quelques PowerPoint.
Peut-être montrer quelques images, mais je crois que vous avez tous dans votre dossier l'étude. Hein. Donc, en effet, tout d'abord, je dirais, pour répondre directement à la question, que cette étude, c'est une commande. C'est une commande de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui est adressée donc à Livre au Centre, qui est un établissement public de coopération culturelle, donc la structure régionale du livre pour la région Centre, EPCC, créé par l'État et la région. Donc, en fait, dans ses statuts, cet établissement public a l'observation dans son escarcelle, qui n'est pas une observation strictement limitée à la lecture publique, mais qui comprend évidemment la lecture publique. Donc, ça fait partie de ses missions. Et il est très clair que cette commande, portée par l'établissement public, Livre au Centre, a évidemment une dimension partenariale. Parce que Livre au Centre ne pouvait pas inventer les données tout seul. D'autre part, la DRAC ne disposait pas d'éléments suffisants ou suffisamment fiables. La région qui a été associée, il y a eu une sorte de petit comité de pilotage où on a associé ces différents partenaires que je suis en train de vous lister. Le principal de ces partenaires étant les bibliothèques départementales, puisque elles seules étaient en mesure de nous fournir des données extrêmement précises à jour au 31 décembre 2009. Donc c'est clairement une commande, hein. C'est pas une libre initiative, etc. Mais c'est une commande à laquelle, en fait, tous les partenaires que je vous ai cités se sont ralliés, parce que la région, qui pouvait sembler, en effet, un petit peu loin de cette préoccupation a priori, s'y est intéressée de très près, je vous dirai en conclusion, en fait, comment ça peut leur être utile aussi. Alors, par quoi a été motivée cette commande? Eh bien, déjà, par le fait de connaître l'état des lieux. Et quand je dis l'état des lieux, c'est une sorte de jeu de mots, puisque c'est connaître l'état des lieux de la lecture publique, c'est-à-dire quels sont les établissements de lecture publique, quels sont les équipements sur le territoire régional, et l'état des lieux, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils valent sur le plan qualitatif. Alors, pour cet étalonnage qualitatif, cette sorte de hiérarchisation des équipements, on a utilisé tout simplement la typologie ADBDP DLL, qui est tout à fait reconnue dans toutes les BDP, et donc qui permet, une fois un certain nombre de calages opérés pour que tout le monde s'entende bien sur les mêmes critères en même temps et non pas simplement un échantillonnage de critères, on a établi ainsi des cartes qui sont comparables d'un département à l'autre. Alors, par exemple, là, c'est un premier échelon qui est un travail au niveau régional où on a fait un distancié. C'est-à-dire que ça, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup, c'est-à-dire essayer. Et c'est Frédéric qui donc est la maître d'œuvre à Livre au Centre de cette opération, à laquelle on doit cette publication. Hein, c'est vraiment elle qui a porté concrètement la chose. Elle a pu établir, grâce au logiciel qu'elle avait, un effet distancié, c'est-à-dire de pouvoir dire, ben voilà, telle commune est à telle distance d'un équipement de lecture publique. Alors, à votre gauche, si je me souviens bien, ce sont tous les équipements de lecture publique de la région, les 840 équipements ou 70 équipements. Et de l'autre côté, ce sont seulement les trois niveaux de bibliothèque, BM1, BM2, BM3, sur l'ensemble de la région. Là, il y en a 400, je crois, à peu près. Voilà. Donc, ça permet de voir en noir, dans les deux et en brun, les lieux qui sont les plus éloignés. En brun, c'est de 9 à 10 km. Hein, et voilà. Et voilà. Et donc en noir, c'est 12 et 19 km. Or, on sait, chacun d'entre nous sait, qu'au-delà de 10 km, l'attractivité d'un équipement de lecture publique est médiocre, tendant vers nul. Donc voilà, on a donc très clairement apparaissent au niveau régional un certain nombre de zones noires qui sont en effet problématiques et à traiter. On va voir comment on peut s'y prendre. Donc le premier but, c'était ça, connaître l'état des lieux. Quelle est l'offre réelle sur le terrain pour la population en nombre et en qualité. Quelle est la densité de cette offre et sa répartition en tenant compte de la densité de population. Si tu peux afficher une carte, à la limite n'importe laquelle, ça peut être bien, puisqu'on a toujours mis ça en regard. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la nécessité de mettre en rapport les données lecture publique avec les données d'intérêt général. On l'a fait sur certaines grandes données au niveau régional, mais au niveau de chaque carte, de chaque petite monographie, en quelque sorte, on l'a établi en fonction de la densité de population. Ce qui nous a paru, dans un premier temps du moins, le plus pertinent, ou le moins impertinent, en tout cas. Un deuxième objectif, c'était de regrouper dans un document commun les politiques de lecture publique, c'est-à-dire la position de l'État, la position des départements, puisque chaque département a une politique de lecture publique qui peut être différente, et la position de la région. Alors, vous me direz, c'est un peu bizarre comme idée, mais je suis désolé, en région centre, ça n'existait pas. On n'avait pas d'éléments comparatifs de ce type. Ça permet d'expliquer beaucoup de choses par rapport à une analyse, là encore, à une analyse brute des chiffres. Ce qu'on disait tout à l'heure, et ça j'y tiens vraiment beaucoup, il est très important de toujours relativiser, de contextualiser, comme a dit l'un des intervenants tout à l'heure, de contextualiser chacune des données chiffrées. Par exemple, en brut, on présente le nombre de bibliothèques BM1, BM2, BM3 dans un département. On s'aperçoit qu'il y a un département qui en a beaucoup, alors que ce n'est pas forcément le mieux structuré, que ça ne correspond pas forcément à une meilleure qualité. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de BM3, mais très peu de BM1, par exemple. Alors que dans l'autre, qui a beaucoup moins de le Loir-et-Cher, par exemple, qui a beaucoup moins de bibliothèques, mais c'est un département qui a structuré sa son réseau départemental, de telle sorte qu'il a peu, relativement peu en tout cas par rapport à sa population, de très gros établissements, mais que chacun de ces établissements a un rôle de démultiplication. C'est une médiathèque tête de réseau. Donc il faut toujours contextualiser les chiffres, il n'y a pas de vérité de chiffres absolus. Donc regrouper dans un document commun les politiques publiques. Et puis un troisième but, et qui peut sembler un peu raccroché au précédent, mais qui est comme le temps d'air par rapport à la locomotive à vapeur, fort utile par rapport à cet état des lieux et à cette définition, ce rappel des politiques publiques. C'était la question de savoir où et dans quelle proportion ont été attribuées les aides à l'investissement de la région et de l'État. Donc ça, c'est un point dont on a une idée en termes de liste. C'est relativement facile. Le concours particulier fait l'objet en quelque sorte de bilan annuel ou en tout cas de liste de bénéficiaires. Mais la mise en carte de cette intervention État et de l'intervention région est évidemment très intéressante, en tout cas, ne serait-ce que sur un plan descriptif. Après, on va voir qu'on peut peut-être en faire autre chose. Alors, comment on s'y est pris ? Je suis très rapide parce que c'est plus... Oui. Comment on s'y est pris ? Tout simplement en collationnant des données chiffrées, donc en provenance essentiellement des BDP, mais pas exclusivement. Il y a aussi la contribution de Yegor et de Denis Cordazo, qui est dans la salle, j'ai vu tout à l'heure, qui ont fourni des données spécifiques pour la région et pour les départements. Il y a eu également la DBGV et la DBDP. Et la région. Au départ, la région n'était pas très intéressée, mais finalement, la direction de l'aménagement du territoire s'y est mise et a assisté à tous les comités de pilotage, du coup, et a été très, très présent. Là, je fais un petit raccourci par rapport au reste. Si vous voulez.
Oui, si vous voulez, parce que je pensais effectivement qu'on allait, dans la discussion, parler justement de la collaboration et des partenariats.
D'accord.
Si ça vous convient.
Quand vous voulez.
Mais vous sautez à votre conclusion, là
Oui, nous sautons à la conclusion.
J'ai l'impression que je vous ai complètement interrompu, je suis désolée.
Oui, donc on reparlera de l'exploitation dans la discussion, j'en parle maintenant. L'exploitation, en fait, c'est le but, c'est tout à fait convergent avec ce qu'on a pu dire dans les interventions précédentes. En effet, la dimension émulation pour les élus est quelque chose d'extrêmement important. La dimension, en effet, de « mais qu'est-ce qui se passe à côté, ou dans le département, ou à proximité, etc. ?» Comment les choses se répartissent ? Comment est-ce que je peux améliorer ma position ? Comment je me situe par rapport à un contexte ? C'est extrêmement important. Donc, aide à la décision des élus, incontestablement. C'est un argument dans la négociation avec les élus. Un argument qui est à la fois à la disposition des départements, c'est-à-dire des directeurs de BDP, de la DRAC, de la préfecture de région, le cas échéant, si elle le souhaite, dans le cadre des conférences, des comités administratifs régionaux, et puis, bien évidemment, de la région. C'est là-dessus sur lequel je conclurai. C'est que, en région centre, comme c'est indiqué sur les cartes qui sont à la fin de l'étude, il y a une intervention de la région qui est non négligeable sur des investissements en bibliothèque, dans le cadre des contrats de pays et d'agglomération. Évidemment, dans le contexte actuel de redéfinition des compétences et de positionnement, en effet, des régions par rapport aux pays qui risquent de disparaître, ou en tout cas d'avoir moins de légitimité, c'est un vrai élément pour réfléchir à la façon dont la région peut se positionner par rapport aux collectivités pour les soutenir en matière d'investissement lecture publique. En un mot, est-ce que les régions doivent continuer, la région centre en tout cas, doit-elle ou non continuer à être présente sur ce type d'investissement ? N'est-il pas préférable de se repositionner sur d'autres types d'investissements ou sur une aide au fonctionnement ou ne plus intervenir en lecture publique, etc. Voilà.
D'accord. Votre étude apporte des éléments donc à ce débat.
Voilà, exactement.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Je suis navrée d'avoir été obligée de vous demander d'accélérer un petit peu. C'est toujours un peu frustrant, ces tables rondes. Un peu trop copieuse, il faut dire ce qui est. Donc, je vais peut-être passer tout de suite la parole à Madame Sandrine Rio-Oniela pour qu'elle nous explique, elle aussi, dans quel contexte elle réalise ses études et quel type d'études, plus précisément.
Alors, nous, on n'intervient que dans le cadre de commandes, évidemment, puisqu'on est un prestataire privé, comme vous l'avez rappelé. Donc, on a assez peu l'occasion de collecter directement des données. Généralement, on exploite des données existantes, avec les limites que ça peut avoir. Je vais y revenir. Et sinon, il nous arrive de collecter des données, mais sur vraiment un échantillon de bibliothèques, comme ça a été le cas sur plusieurs études récentes. Donc, quand on exploite des données existantes, on utilise généralement les données classiques d'impact et de moyens, et du coup, le comparatif là de la direction du livre, ex-direction du livre, est pour nous un très bon outil. Le profil moyen ou la moyenne nationale. Notamment quand les collectivités partent de très loin. Les moyennes nationales sont encore des données intéressantes. Malheureusement, on a encore des collectivités où le taux d'inscrit, je l'ai encore vu récemment, dans une ville, le taux d'inscrit est à 10%. Donc c'est vrai que là, on appuie sur on donne ce type de données. Et quand on a face à nous des élus ou des DGS qui font des lectures assez rapides, des documents que l'on remet, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, tous les documents ne sont pas lus pour forcément dans le détail par les décideurs, donc il faut aller à l'essentiel. Donc ce type de données est très importante. Quand on a montré un certain nombre de fois que le taux d'inscrit dans une collectivité à la bibliothèque était vraiment très très inférieur à la moyenne nationale, et qu'on n'oublie pas de rappeler que la moyenne nationale n'est qu'une moyenne nationale, donc qu'elle tire aussi vers le bas. Donc généralement, ça peut avoir un effet d'émulation, comme on disait tout à l'heure. Ça peut avoir un effet positif, pas toujours, mais ça peut l'avoir. Donc en effet, on utilise ces données-là généralement pour des études de type schéma directeur, des études assez macro à l'échelle d'un département, voilà. Là où on a le besoin d'avoir le plus de données possible. Plus on a de données, moins elles vont être fines et précises. Je pense notamment aux données que l'on peut récolter dans le cadre d'un plan départemental de la lecture publique, comme on vient de le terminer pour l'Ardèche. Donc plus on a nécessité d'avoir de données, moins elles vont être précises, fines et collectées facilement. Donc plus on doit être sur des données faciles d'approche, comme le taux d'inscrit, qui reste quand même une donnée intéressante. Ensuite, quand on est dans des missions de type audit, études de préfiguration d'un fonctionnement d'une grosse bibliothèque, comme ce fut le cas pour la future BMVR de Caen, sur laquelle on a travaillé l'année dernière, des diagnostics d'équipements importants, comme c'est le cas à Lyon, par exemple, là, on rentre dans des données plus précises, puisque les moyennes nationales ne vont pas du tout nous intéresser. Là, on va être plutôt dans une approche de collecte de données. Donc, soit à notre propre initiative, parce qu'on en a besoin dans notre méthodologie, soit à la demande du client, de la collectivité. Puisque je voulais quand même ouvrir cette parenthèse, je ferai quand même cette remarque. Les collectivités demandent de plus en plus de benchmarks, de comparatifs. Chacun utilise le mot qu'il voudra. Mais dans le cadre d'audit notamment, on a vu depuis, je dirais même 5-6 ans, des demandes de plus en plus importantes de comparatifs de données des grandes villes de France. Voilà. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que les collectivités intègrent ces données chiffrées, les exploitent elles-mêmes et pas forcément les bibliothèques en propre. Donc nous, on fait ce travail de collecte de données, notamment dans les grandes bibliothèques de type BMVR, pour avoir des données plus précises que les données nationales, donc celles qui remontent par la SLL. Pourquoi ? Parce que d'abord, la difficulté qu'on a avec les données nationales, c'est que ce sont des données agrégées, consolidées, et parfois on a besoin juste de mettre en perspective la tête de réseau ou l'équipement central. Donc du coup, les données là, lorsqu'elles sont agrégées, ne nous rendent pas service du tout, bien au contraire. Pour pouvoir comparer aussi les BMVR entre elles, on est obligé de ne plus avoir de données agrégées, puisque pouvoir comparer Strasbourg, Rennes, qui sont où on aura là comme remontée que les données de la BMVR, et Montpellier, qui est un réseau intercommunal, on n'aura plus du tout la même base de comparaison. Donc nous, on est obligé de revenir sur les données et d'aller plus précisément sur la tête de réseau, la BMVR, et ne plus travailler sur les données consolidées. Ce travail de collecte nous permet également d'aller sur des données que l'on n'a pas dans les remontées d'informations de la direction du livre. Je cite quelques exemples. Par exemple, nous, ce qui nous intéresse parfois, c'est d'avoir, lorsqu'on a la superficie de la BMVR, c'est d'avoir plus précisément la superficie des services au public dans la BMVR. Lorsqu'on a le personnel total, il nous faut le personnel juste de la BMVR, le pourcentage de catégorie A et B, et encore même, on est très curieux, on demande aussi avoir le pourcentage de temps passé en service au public des agents. Voilà, on va sur deux types de données qui sont vraiment très précises. La fréquentation aussi, une donnée importante, mais qui remonte, je crois, maintenant à la direction du livre. Le nombre d'entrées annuelles dans les BMVR sont intéressantes, puisque du coup, là, on peut les comparer l'une à l'autre. Voilà. Donc, on remonte un certain nombre de données comme ça que l'on demande au coup par coup, du coup, à vos collègues des BMVR. Qu'en fait-on des données? Puisque nous, on les collecte dans un but précis, hein, puisque en général, on collecte ces données pour mettre en perspective une bibliothèque ou un réseau, hein, puisque là, j'ai les deux niveaux, et tout en les resituant vraiment chacun dans un contexte. Ça permet de mettre en perspective, de comparer évidemment ce qui est comparable, hein, ce qui est toujours difficile, hein, puisque d'un réseau à l'autre, même quand on compare toutes les BMVR, ce n'est pas du tout la même chose d'une BMVR à l'autre, mais ça permet quand même de mettre en perspective quelques données, par exemple la superficie, le nombre d'agents, les horaires d'ouverture, et de voir, de situer l'exemple que l'on a à comparer. Hein, on a travaillé comme ça sur l'audit de Grenoble ou de Toulouse, de mettre en perspective l'exemple qui nous est demandé d'étudier par rapport aux grands équipements français. On met aussi en avant, évidemment, les grands équipements récents ouverts pour éviter de comparer une BMVR comme celle de Toulouse qui vient d'ouvrir avec des équipements qui sont beaucoup moins récents. Donc, d'où ce travail plus ciblé. Voilà pour l'exploitation. En termes d'outils d'aide à la décision, donc c'est surtout un outil d'analyse, de diagnostic, hein, dans ces premières phases. En termes de communication, on utilise beaucoup, hein, comme vous venez de le voir, les outils cartographiques, qui sont des éléments très importants, notamment quand on travaille sur des réseaux de lecture publique, et les taux d'inscrits, là, sont des éléments intéressants. Quand on arrive à travailler avec le service SIG de la ville et à recroiser les inscrits avec des codes quartiers, par exemple, là, on travaille vraiment dans un outil cartographique dynamique, mais même dans des outils cartographiques non dynamiques, pour communiquer, encore une fois, parce que nous, nos interlocuteurs sont vraiment les élus, pour communiquer avec les élus, on utilise beaucoup la cartographie des données que l'on a. Donc les données utilisées sont des données utilisées dans les phases de diagnostic, mais aussi évidemment dans les phases prospectives et de préconisation, notamment dans l'aide à la décision, lorsqu'on a des collectivités pas encore très convaincues d'investir dans la lecture publique. Voilà.
Écoutez, je vous remercie. En plus, vous faites surgir un certain nombre de choses qui ont été évoqué ou suggéré dans les interventions précédentes, par exemple l'aspect communication dont nous avons eu jusqu'à présent, même si les précédents intervenants n'ont pas insisté là-dessus, nous avons vu leurs documents de communication qui sont tout à fait, on voit qu'ils se sont préoccupés de cet aspect de la question. Fort important. Donc je vais passer la parole au dernier intervenant pour le moment, Georges Perrin, qui Merci. Va nous parler de son activité habituelle d'études.
Voilà, oui, ben nous aussi, nous agissons sur commande, si je puis dire, mais la provenance n'est pas tout à fait la même. En fait, si, elle est indirectement la même. Nous répondons toujours à une commande qui émane soit du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, soit du cabinet du ministère de la Culture, mais une commande qui est évidemment préparée d'abord par le SLL côté culture, par la ministère des côté enseignement supérieur, sur des suggestions qui remontent côté culture des DRAC, ou parfois peut-être à la demande d'une commune qui souhaite, ou d'un département qui souhaite avoir une analyse plus précise de son système de lecture publique, de son réseau de lecture publique. Voilà, donc ça c'est le démarrage de l'opération. Alors, entre nous, nous avons, j'ose pas dire des recettes, mais on a une espèce de vade-mecum pour chaque type d'établissement, Donc on commence par d'abord appeler le directeur de l'établissement pour lui annoncer qu'il va avoir l'honneur et la chance de recevoir la visite d'un inspecteur. Et nous lui demandons toute une liste de documents, notamment les budgets sur les trois dernières années, budget et bilan, bien sûr, sur les trois dernières années. Nous lui demandons, dans le cas d'une BDP, par exemple, eh bien, la physionomie de son réseau, c'est-à-dire une carte de son réseau. Nous demandons un organigramme, nous demandons enfin, un certain nombre de choses, y compris la liste des personnels avec les âges, enfin des choses assez précises. En tout, une quinzaine de documents qui donnent déjà, qui permettent déjà de faire une première investigation. Et puis après, je vais prendre le cas d'une BDP, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à décrire. Après, nous entamons une enquête de site, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on essaie de caractériser le site. Et on essaye de déterminer, on contextualise toujours, hein, le contexte géographique. Hein, on se doute bien que la desserte n'est pas la même dans les Landes et dans les Hautes-Alpes, par exemple. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le contexte démographique, très important. Le contexte économique, le contexte administratif et politique. Et puis le contexte culturel. Et donc, on a à chaque fois des données assez précises. Pour ceci, évidemment, on contacte on consulte un certain nombre de sources. L'INSEE, naturellement, hein, pour tout ce qui est la démographie. La géographie, on trouve assez facilement, y compris des cartes sur les sites des départements concernés, par exemple. On les trouve assez facilement. On regarde encore le contexte économique. Bon, on interroge parfois les sites des chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture. Bon, on arrive à trouver pas mal de chiffres et de données. Et puis, le plus difficile peut-être et le plus instable, c'est la carte des intercommunalités. Là, il faut recouper plusieurs sources et parfois on recompte les communes dans chaque intercommunalité. Parfois, il y en a une qui est sortie, une qui est rentrée. Bon, on a beaucoup de mal à stabiliser cette carte-là, mais on arrive quand même. Voilà. Et puis le contexte culturel, bon, vous savez que chaque commune qui a son musée, c'est toujours le plus beau musée de France. Les départements est toujours le plus agréable à vivre, évidemment. Donc on a là toutes les ressources sur les sites des différentes collectivités concernées. Voilà, donc ça, c'est la première collecte. Et j'allais dire, vient ensuite la consultation, évidemment, du système de statistique du SLL qui nous donne tous les chiffres, qui permettent un certain nombre de choses, c'est l'exploitation qu'on en fait. D'abord, l'évolution sur les trois dernières années. C'est toujours ce qui est demandé en termes budgétaires, en termes de personnel, en termes d'activité, en termes de développement des collections. Voilà, enfin, tous ces chiffres-là, on les récupère sur les tableaux qui nous sont fournis par le SLL, y compris parfois des demandes plus précises pour une commune ou pour une autre. Donc ça, c'est les dernières données qu'on exploite. Ce que je voulais dire pour conclure, parce que je vais parler d'un autre type d'étude, évidemment, ce sont des éléments extrêmement importants qu'on analyse, qu'on fouille, qu'on décortique, qu'on regarde. Parfois, les choses sautent aux yeux hein, quand les statistiques sont complètes, parce qu'il arrive aussi qu'elles ne soient pas renseignées. On a parlé des NC, ça arrive aussi, ou des zéros, hein, ça arrive, voilà. Et puis, parfois aussi, on a des chiffres surprenants. Récemment, je regardais dans un département d'outre-mer une commune qui, chaque année, commandait, bon an, mal an, à peu près 12 000 documents, 12 000, 11 500, 13 000. Et puis l'année 2164. Et puis on repart sur 12 000. Bon, voilà. Et là, on essaye de comprendre. On ne comprend pas toujours. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que... Voilà. Bon, il y a des choses parfois un peu bizarres. On n'a pas toujours une précision absolue. Et j'avoue que ça doit être extrêmement difficile de pouvoir vérifier l'authenticité des chiffres fournis. Voilà. Donc ce qui compte quand même dans ce que fait l'inspection, c'est évidemment... la qualité du fonctionnement et l'impact, l'impact de l'activité de l'établissement. Donc les chiffres aident, mais on s'intéresse évidemment aussi à la qualité du projet d'établissement. Dans le cas d'une BCP, d'une BDP, pardon, excusez-moi, je parle à l'ancienne, de la qualité aussi du plan de développement, du plan de développement de la lecture publique. On voit bien que chacun a son système adapté au terrain. Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il ne l'est pas? Parfois, on s'aperçoit, en regardant les chiffres, que sur les trois dernières années, on a presque doublé le nombre d'inscrits. Donc, ça veut dire que le plan était performant. Doubler le nombre d'inscrits, doubler le nombre de prêts, ça veut dire que bon, l'équipement a avancé, que tout ça a été performant. Parfois, ça patine un peu. Parfois, ça régresse un peu. Donc, ça permet de se faire une idée assez précise de la qualité du service et de l'établissement. Ce qui compte aussi, c'est la qualité, j'allais dire, de la volonté politique. Et ça, on l'aperçoit dans les chiffres, mais de très loin, on le voit beaucoup mieux en parlant, parce qu'évidemment, chaque fois, on a contact, soit avec le président du Conseil général, soit avec l'élu en charge de la culture, plus souvent d'ailleurs avec l'élu en charge de la culture, et avec le directeur général adjoint chargé des affaires culturelles ou chargé de l'aménagement du territoire, dans le cas de certains départements, ou, comme on l'appelle de ce très beau mot, hein, souvent, la direction de la proximité. Voilà, donc on arrive à faire un rapport, évidemment. On fait un rapport avec force tableau hein, qui vise à démontrer ce qu'on a vu, à expliquer ce qu'on a vu. Et puis ce rapport, on l'envoie au président du conseil général ou au maire de la ville ou au président de l'université. Voilà. Et on lui demande son avis. On lui demande de donner un avis, de faire des remarques, de compléter s'il pense qu'on a oublié quelque chose, de rectifier si on s'est trompé. Et on donne un délai à peu près d'un mois. Parfois, il faut tirer l'oreille pour avoir la réponse. Ce n'est pas toujours évident de l'avoir. Et le plus souvent, on a une réponse polie disant « Vous vous êtes trompé sur le nombre de personnels de catégorie C ». Bon, voilà. Donc, on rectifie ce genre de questions. Malheureusement, on a trop rarement de réponses qui soient vraiment contradictoires, c'est-à-dire qui permettent d'engager une sorte de dialogue ou de dire « Bon, voilà, d'expliquer pourquoi on a écrit ça plutôt que ce que souhaitait voir l'élu ». C'est très, malheureusement assez rare. Une fois qu'on reçoit donc cette validation, eh bien, nous envoyons ça à la direction du service du livre et de la lecture maintenant, et il est chargé de diffuser à toutes les personnes qui doivent le recevoir. Bon, évidemment, le maire ou le président du conseil général ou le président de l'université, le préfet du département, généralement, et puis les maires des communes visitées quand, dans l'inspection de la BDP, on a pu visiter une ou deux communes, ce qui est généralement demandé, et où le maire a bien voulu nous recevoir. Voilà donc pour les études de site. Alors, on nous demande un autre type d'études, les deux cabinets nous demandent un autre type d'études, c'est ce qu'on appelle les études thématiques sur un sujet particulier. Là, je vais citer donc une étude déjà un petit peu ancienne que j'avais conduite sur l'emploi étudiant dans les bibliothèques. Et j'allais dire que là, les statistiques posent problème. J'allais dire les sources, les données posent problème. Je vous expliquais pourquoi. Alors, ce cas précis, ça m'avait posé problème. Et j'ai pu vérifier récemment, en reprenant ce travail, que d'autres rapports avaient souligné la même difficulté sur ce sujet précis. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent donner lieu comme ça à des espèces de confusion dans les chiffres. J'avais regardé quatre sources sur l'emploi étudiant dans les bibliothèques. L'INSEE, bien sûr. Recours traditionnel et essentiel. L'Observatoire de la vie étudiante, qui tous les trois ans fait un rapport extrêmement détaillé sur la condition étudiante et consacre un chapitre à l'emploi étudiant, assez précis, avec des chiffres précis. Le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications, qui parle du premier emploi, donc qui bien souvent concerne les étudiants aussi. Et puis le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui, lui, tient des statistiques assez précises, au moins sur les étudiants qu'il emploie lui-même. Voilà. Emploi étudiant en bibliothèque, la même rubrique. Nous n'avons pas un chiffre qui ressemble à l'autre. Et il y a des écarts considérables. Alors, tout le monde s'accorde sur une moyenne. Il y a 51% des étudiants qui, en France, travaillent au moins occasionnellement ou tout au long de l'année. Donc là, à peu près tout le monde est d'accord. Mais dès qu'on rentre dans le détail, rien ne va plus. L'INSEE comptabilise principalement les étudiants qui exercent un emploi, qui les autorise, si je puis dire, à payer un impôt. L'Observatoire de la vie étudiante comptabilise tous les emplois étudiants, y compris ceux qui ne sont pas déclarés, puisqu'il part de ses propres enquêtes, de ses propres questionnaires. Le CEREC ne comptabilise que les emplois étudiants qui débouchent immédiatement sur une profession. En gros, c'est les stages rémunérés dans la branche où on étudie, ou des filières comme celle-ci. Quant au CNUS, comme je viens de le dire, il ne comptabilise que les étudiants qui travaillent pour lui, qui représentent une partie très importante des étudiants qui travaillent. Voilà, donc il faut, à ce moment-là, compte tenu de l'orientation qu'on veut donner à l'étude, il faut choisir son parti et se recentrer sur un, voire maximum deux sources. Voilà. Donc c'est une difficulté que je voulais souligner. Et puis dans ce type d'étude, évidemment, on fait des comparaisons avec l'étranger, inévitablement, le fameux benchmarking. Et je m'étais aperçu à cette occasion-là que, par exemple, aux Pays-Bas, 90% des étudiants travaillent. Et là, ça pose question parce que personne ne vous donne l'explication. Donc on peut faire toutes les suppositions possibles. C'est ce qu'on écrit d'ailleurs dans le rapport. Peut-être s'agit-il d'une pression sociale forte. Peut-être s'agit-il, au contraire, d'une quasi-obligation universitaire avec valorisation de ce travail dans le cursus des études. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Peut-être ai-je manqué un peu de curiosité. Voilà ce que je peux dire donc sur l'exploitation des données qu'on peut faire en faisant donc, nos fameux rapports d'inspection générale.
Écoutez, merci. Vous aurez également beaucoup de questions, de pistes de discussion. Je remarque que tout le monde a insisté sur la contextualisation des données, fort importante. Et bon, là, vous nous donnez un contexte, effectivement. On ne connaît pas le contexte des Pays-Bas. Donc, c'est pas le tout d'avoir des chiffres, encore faut-il les expliquer. Ça, c'est effectivement le problème. Je remarque aussi que vous avez tous... Des commandes vraiment très ciblées avec des idées très précises de ce que vous allez faire de vos enquêtes. Comme je disais tout à l'heure, puisque vous, en fait, vous arrivez tous plus ou moins au terme d'une expérience, vous avez abouti dans votre démarche d'enquête, j'avais suggéré que la discussion s'engage sur ce qui avait facilité votre démarche et ce qui l'avait un peu, et ce qui l'avait au contraire handicapé. Je vous ai un petit peu coupé la parole, Monsieur Bouguier. Je suis désolée, justement, au moment où vous expliquiez l'importance du partenariat avec, et comme c'est le thème de cette journée, les collaborations pour arriver à produire des données exploitables par d'autres, contextualisées, qu'on peut comparer. Enfin, vous avez bien insisté. Plusieurs d'entre vous sur l'importance de pouvoir comparer. Enfin, effectivement, le chiffre en soi n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Et donc, j'avais pensé demander peut-être à M. Bouguier et puis aussi à Frédéric Breuil, qui est dans... Donc, de Frédéric Breuil, comme le disait Jean-Pierre Bouguier, qui travaille à l'agence Livre au Centre et qui, donc, a été une des chevilles ouvrières de cette enquête. Dans ces partenariats, vous avez comment c'était, enfin, ce qui vous, de votre point de vue, le bilan que vous faites actuellement, qu'est-ce qui a facilité votre démarche et qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui manquait par exemple dans les données que vous avez collectées. Est-ce que Madame Breuil veut prendre la parole?
Alors, ce qui manquait, c'est difficile à dire. On aurait bien aimé aller plus loin, en tout cas dans nos cartographies sur les aides. Les aides financières, on aurait voulu avoir des données des conseils généraux, mais on a manqué de temps pour ça. Mais on ne désespère pas, et peut-être ça sera un prochain volet.
Donc, oui, c'est vrai que c'est un point important et qui nous a créé souci. Ce que dit Frédéric est tout à fait juste. Ce qui nous intéressait, en fait, c'était d'essayer de faire pour les départements et les communes ce qu'on avait fait pour l'État et la région. C'est-à-dire que l'État et la région, là, mettaient en carte, en quelque sorte, des réalités, c'est-à-dire ce qui réellement avait été les subventions aux équipements. Alors que pour ce qui concerne les départements et les communes, souvent dans les dossiers de la région comme dans les dossiers de l'État, on a les intentions, on n'a pas les chiffres finaux, c'est-à-dire les coûts réels au bout du compte. Hein. Et ça, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, ça serait l'objet d'une étude complémentaire à faire, d'ailleurs, d'après les premières approches qu'on avait pu faire avec quelques-uns des directeurs de bibliothèques départementales, est en réalité beaucoup plus compliquée que ce que j'imaginais. Parce qu'en réalité, tous les départements ne positionnent pas exactement au même endroit les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement pour leur réseau. Donc, il y a vraiment un travail à faire, là, qui est un travail complexe. Mais il y aurait également, dans toute la partie... Parce que c'est vrai, si on reste sur les financements, on peut être étonné de voir qu'on a éprouvé le besoin de faire 6 cartes départementales et puis une nouvelle carte régionale pour la période 86-97. Ben oui, parce que la région n'est pas partie dans les contrats de pays et les contrats d'agglomération en même temps que le concours particulier des bibliothèques en 86. Donc évidemment, les choses n'étaient pas comparables et on ne pouvait pas, ne serait-ce que diplomatiquement, faire des cartes départementales où la part de l'État devenait écrasante du fait de l'antériorité du concours particulier. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous évoquiez l'aspect communication. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces choses. Frédéric connaît beaucoup mieux ces questions-là. Mais il y a des aspects diplomatiques en même temps que de communication.
Hein ?
Bien sûr. Ils sont importants. Alors, au-delà de ces affaires de coûts, de dépenses des départements et des villes et des communautés de communes, qui seraient en effet extrêmement intéressants à pouvoir mettre là aussi en carte, il y aurait sans doute la nécessité d'aller un petit peu plus loin sur les usages des publics. Alors là, sans doute qu'on arrivera avec le nouvel observatoire de la lecture publique à faire des déclinaisons régionales qui répondront en grande partie, en tout cas, à ce volet. Simplement, il faut bien comprendre que dans cette publication, comme je vous l'ai expliqué très brièvement, mais néanmoins j'y reviens, il y a des données qui sont d'ordre différent. C'est-à-dire qu'on a voulu à tout prix insister sur l'état des lieux. C'est-à-dire là, on voulait être sûr. Ou quasiment sûr. Il y a toujours des erreurs, j'en ai revu plein. Enfin, bon, c'est pas grave, mais c'est normal. Quand on manipule des séries statistiques aussi importantes, il y a toujours, au moment de la géolocalisation, quelques ambiguïtés. Mais quand même, on approche de la réalité. Alors que dans la partie qui s'appelle « Données statistiques », la partie, c'est juste deux pages, où on répète, où on reprend un certain nombre de données régionales fournies par l'Observatoire de la lecture publique, on est sur des bases tout à fait différentes, puisqu'on est sur du déclaratif à partir de ceux qui ont bien voulu répondre à l'enquête, etc., à une date donnée. Voilà, il faut en tenir compte. C'est pour ça qu'on a essayé de le préciser, mais ce n'est pas toujours absolument évident. Et là encore, la contextualisation ne peut pas être remplacée. Mais Frédéric, tu voulais peut-être dire autre chose.
Non, moi je serais d'accord pour fouiller plus les données publiques, de fréquentation, tout ça. Enfin, aller au fond des choses, là, en 4 mois, on n'a pas pu faire mieux.
C'est déjà... un travail un peu impressionnant. Je voyais ma voisine de droite, Oshie Duchef, quand il était question de problèmes pour assembler des données financières. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce thème ?
Moins des données financières que des données de manière générale. C'est vrai qu'on parlait des départements. Par exemple, quand on a travaillé sur le département de l'Ardèche, on voit bien que même faire remonter un taux d'inscrit, c'est compliqué pour des petites bibliothèques. L'Ardèche est quasiment... enfin, que du bénévolat en bibliothèque. Le taux d'inscrit, on sait bien, nous, qu'un inscrit, c'est quand même un inscrit qui a été au moins présent dans l'année. Voilà, dans les inscrits, on a aussi beaucoup de gens qui ne sont plus forcément là. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention aux données qui remontent. Bon, en même temps, dans la mesure où la consolidation des taux d'inscrit montrait qu'on était en dessous de la moyenne, voilà, on a pris des précautions, on prend toujours des précautions par rapport aux données, puisqu'elles sont déclaratives, comme vous venez de le rappeler. Bon, en même temps, comme le chiffre était assez parlant, on l'a quand même exploité. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Après, pour faire remonter... Bon, là, on parle que de données chiffrées. C'est important aussi, vous l'avez rappelé, Georges Perrin, l'approche qualitative, le retour d'expérience. C'est un élément important dans les diagnostics. Là, on est vraiment très données chiffrées, mais ce n'est qu'une partie quand même des diagnostics. Ça vient en appui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que les données chiffrées évoluent d'année en année. On l'a rappelé tout à l'heure dans la précédente table ronde. Le taux d'inscrit commence à être insuffisant en termes d'impact dans les bibliothèques, notamment dans les grandes bibliothèques. On regarde de plus en plus la fréquentation in situ et la fréquentation virtuelle. Et c'est là où, aujourd'hui, on a encore un petit peu manque de recul, parce que la fréquentation virtuelle, telle qu'on l'a regardée, par exemple, sur le site de l'ABM de Lyon ou l'utilisation du guichet du savoir... Bon, ben voilà, on la compare avec quoi? Pour le moment, pas avec grand-chose. Donc, un chiffre en soi, il n'est pas parlant. Un indicateur en termes d'évaluation, tout seul, il n'est pas parlant. Il n'est parlant que si on le regarde dans l'évolution, le chiffre lui-même en termes d'évolution, et où il n'est parlant que si on le compare avec d'autres. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de données qui sont intéressantes, puisque les bibliothèques ont évolué. L'impact en bibliothèque ne peut plus être regardé que par le spectre du taux d'inscrit, et en même temps on manque de recul parce que on n'a pas ces remontées de partout. Donc voilà. Après, c'est vrai que les grandes bibliothèques ont toutes les mêmes attentes aussi. Elles sont en attente d'avoir des données, de comparer. Nous, quand on les sollicite, elles ont aussi envie d'avoir le retour, de voir un peu comment elles se situent. Donc en revanche, nous, en termes de remontée d'infos, en ce qui concerne les grands équipements, notamment les BMVR, on n'a pas de souci de collaboration, même si on ne peut pas forcément appeler toujours ça une collaboration, on sollicite les directeurs des grands équipements, on n'a pas de souci de remontée d'informations. Les équipements ne sont pas du tout avares de leurs chiffres et sont assez généreux, même quand on rentre même plus précisément dans le retour d'expérience, plus dans le qualitatif, quand on va voir plus du côté des automates de prêt, le retour de l'impact des automates de prêt en bibliothèque. Voilà. Là-dessus, on a aussi des remontées d'informations.
Je crois que vous avez fait aussi, enfin vous avez fait allusion tout à l'heure à la ville de Marseille. Je crois que vous avez également sollicité d'autres grands établissements pour.
On a sollicité d'autres communes, oui, comme Troyes par exemple, comme Reims, Poitiers, etc. Je voudrais revenir sur les difficultés finalement qu'on a rencontrées parce que nous, on trouve qu'on a été trop long. L'étude a pris beaucoup trop de temps. Quand ça prend plus de 4-5 mois, c'est quand même une étude qui... Alors après, ça peut être justifié, mais c'est vrai qu'il y a une vraie impatience qui se crée d'abord au niveau des équipes, au niveau de l'équipe qui pilote le projet, et puis, j'allais dire, des politiques qui attendent, qui sont aussi impatients d'arbitrer. Et dans les raisons qui expliquent la longueur, je crois qu'on a passé du temps, et c'est pas toujours simple de clarifier la commande politique. Il ne faut pas oublier ça. Il y a beaucoup de non-dits qu'il faut savoir interpréter, en tout cas clarifier. Il y a aussi le cahier des charges de l'étude qui peut, en tout cas dans notre cas, qui a évolué un peu avec le temps. Et on s'est retrouvé un petit peu comme la région centre à se dire, tiens, au cours de l'étude, il faudrait qu'on fasse un focus sur tel ou tel point, où il nous manque tel type de données. Ce qui peut être intéressant, mais je crois que avoir un cahier des charges assez clair dès le départ, c'est vraiment important parce que c'est aussi une feuille de route aussi qui est plus simple et qui évite aussi un autre risque qu'on a pu ressentir à certains moments, c'est ce que j'appelle la paralyse de l'analyse, c'est-à-dire quand on commence à rentrer trop dans les chiffres, après on trouve que le chiffre il n'est pas encore assez précis, on va encore passer des heures à essayer d'expliquer le chiffre et puis finalement on oublie l'objectif final de l'étude qui est quand même d'aider à prendre des décisions. Et il faut bien se dire une chose, c'est qu'on n'aura jamais tous les éléments de réponse lorsqu'on doit prendre une décision qui n'est pas simple. L'ouverture d'une médiathèque, la fermeture d'un site, les changements horaires. On peut se baser sur le passé, l'avenir, on le construit un peu nous-mêmes en prenant des risques. Et ça, c'est un vrai point aussi d'alerte pour nos collègues qui vont se lancer dans cette aventure, mais aussi pour expliquer à nos politiques qu'on n'aura pas tous les chiffres et qu'il va falloir prendre à un moment aussi des risques qu'on va co-assumer avec eux.
Pour les données financières, les bibliothèques visitées, ça n'a pas été toujours très facile de nous les donner parce que notre grille était assez longue à remplir. Et c'est toujours compliqué d'obtenir toutes les données financières. Hein. Ça, c'est bon, mais partout, on a été parfaitement bien accueillis. Et vraiment, bon, ça a été. Mais les données financières, c'est un peu plus difficile à obtenir.
Oui, pour répondre aussi sur ce point, sur les données financières, oui. En général, les données de fonctionnement, nous, on répond à une commande, donc a priori, les chiffres, on les a à notre disposition en démarrant, dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai que la difficulté que l'on a dans les bibliothèques, c'est les données de coûts de fonctionnement des bâtiments, par exemple. Alors là, c'est le flou absolu. Oui, alors certaines villes font du contrôle de gestion, Donc, on approche analytique des équipements ou consolide, je crois que c'était le cas de Villeurbanne, par exemple, consolide leurs informations. Mais c'est vrai que quand on veut approcher la réalité d'un coût, et qu'on a généralement le coût de fonctionnement personnel, hein, qui est quand même en général le coût le plus important. Donc du coup, c'est déjà une bonne base. Mais c'est vrai que les coûts de fonctionnement, bâtiment, ça, on a vraiment du mal à les avoir dans les collectivités. Donc c'est vrai que là, on bloque sur la remontée d'informations de ce côté-là.
Je trouve personnellement qu'on a peu d'informations sur les bâtiments. Et sur les surfaces, on a des choses très générales, mais on n'a pas le détail, hein, au niveau national. On n'a pas le détail de la centrale, des annexes. Enfin, bon, dans une ville, on n'a pas ça. Oui, et ça, c'est très, très dommage, parce que ça donne un peu le...
Maintenant, il va y avoir.
Mais oui, c'est déjà bien fou.
Non, mais d'accord, mais...
Finalement,
c'est assez fondamental. C'est assez fondamental. L'autre jour, la journée de la DBGV, quelqu'un a souligné l'intérêt qu'il y aura à mettre en rapport deux indicateurs, c'est la surface. Et les horaires d'ouverture.
Mais oui.
Et ce n'est pas forcément idiot, sauf que les surfaces, on ne les a pas.
Bah si, on les a, mais consolidées.
Oui, mais voilà, c'est ça.
Ils sont consolidés sur l'ensemble du réseau. C'est pour ça que nous, par exemple, on avait demandé les superficies uniquement de la BMVR et dans cette donnée, uniquement les services au public, parce qu'une BMVR du début du programme BMVR avec beaucoup d'espaces de réserve, de magasins, ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui, une BMVR avec beaucoup d'espaces publics. Et puis, c'est vrai que la moyenne de la superficie des annexes d'un réseau, c'est aussi une donnée importante. Après, de là à l'avoir sur toutes les données nationales. Bon.
Si je peux me permettre d'intervenir, dans le nouveau questionnaire, nous analysons justement les réseaux point d'accès par point d'accès avec une identification des surfaces distinguées entre les lieux de lecture. Donc là, on pourra avoir exactement les surfaces de chaque point d'accès de façon différenciée. Et autre commentaire, on a eu une longue discussion sur cette question-là. Nous avons changé le mode de comptage des surfaces puisque la surface hors d'œuvre nette qui était celle interrogée était peut-être très pertinente au regard des nouveaux projets de construction. Elle l'était moins au regard de l'utilisation des équipements, notamment quand il s'agit d'équipements anciens. Et calculer une chaîne pour un équipement pour lequel on n'a pas les plans d'architecte et le projet était assez difficile. Donc il nous a semblé que la surface utile rendait mieux compte de l'usage des bibliothèques par les...
Si je peux me permettre pour répondre à cette remarque, moi je vois dans les collectivités, on ne parle pas du tout de la même chose d'une collectivité à l'autre en matière de surface utile. Donc moi j'appelle plutôt à la prudence, à garder le CHON, qui est quand même une donnée sur laquelle on peut comparer d'une ville à l'autre. La surface utile d'une ville à l'autre, on ne parle pas du tout de la même chose. On ne met pas du tout la même chose dans la surface utile d'une collectivité à l'autre. Certains y mettent des circulations, d'autres y mettent des services techniques.
Dans l'aide du document, on précise assez...
Oui,
assez
ce que vous y mettez.
De façon détaillée, ce qu'on considère comme en faisant partie ou pas.
Bien, bah écoutez, la discussion a commencé tout naturellement avec la salle, donc on va peut-être poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions, soit des intervenants aux autres intervenants, soit dans la salle, suite à ces différentes interventions?
Oui, Emmanuel Aziza de la BPI. J'aurais une question pour Monsieur Desmet, mais peut-être que ça s'adresse aussi à Madame Rioux. C'est savoir s'il est intéressant de comparer les bibliothèques avec d'autres équipements culturels, en particulier en termes de coûts, mais pas seulement, ou peut-être en termes de coûts, de ratio coût nombre d'usagers. Je sais, pour avoir été le prédécesseur de David Lisière, je sais que ça avait pu être tout à fait en faveur de la médiathèque, en particulier, puisqu'on pointait beaucoup le coût des médiathèques par rapport au conservatoire ou au musée, mais en fait, rapporté au nombre d'usagers, c'était évidemment beaucoup plus intéressant pour la lecture publique.
C'est sûrement une excellente question. On n'a pas forcément la réponse, parce que ce n'était pas notre angle d'attaque sur l'étude. On était plutôt parti sur les fréquentations, le taux de le nombre de prêts. On est parti sur les mètres carrés aussi. On se rend bien compte, notamment d'ailleurs dans nos bibliothèques annexes, que c'est l'enjeu de la surface est extrêmement important. important parce que justement dans les évolutions de mode d'utilisation de ces équipements, on a des gens qui viennent bien sûr emprunter un livre, mais on a aussi des gens qui viennent consulter, travailler sur place, et notamment Versailles, une ville où il y a pas mal d'étudiants, notamment d'étudiants en classe préparatoire, et c'est une période, on va dire, de, en tout cas de, pendant la période de concours, de révision, où les bibliothèques sont assaillies, hein, et en fait on manque aujourd'hui cruellement de mètres carrés, et pas forcément de mètres carrés pour y placer des livres, mais de mètres carrés pour que les gens puissent travailler. Donc c'est plutôt cet angle-là qu'on a regardé, voyez, plutôt que le taux d'attractivité des équipements culturels, qui je pense que c'est une vraie question pour, notamment quand on veut créer une médiathèque, ça c'est, mais on n'est pas rentré dans ce débat-là. Une autre question qui est en revanche importante pour nous, c'est qu'on a beaucoup de bibliothèques annexes qui sont intégrées dans des maisons de quartier, on peut appeler ça un centre social, où il n'y a pas, donc pas seulement que l'activité bibliothèque, il y a des activités associatives, il y a des activités aussi d'espaces multi-accueil pour déposer, enfin, ce qu'on appelait des haltes garderies. Donc en fait ce sont vraiment des lieux de vie de la ville, et en se posant la question, est-ce qu'on étend la bibliothèque, ben, bien sûr ça veut dire qu'on va prendre de la place à d'autres activités, ou si on la supprime, si on retire une bibliothèque, est-ce que ça ne va pas faire perdre aussi l'attractivité à ce centre socio-culturel ou cette maison de quartier? Vous voyez, ça, c'est plutôt dans ces discussions-là qu'on est aujourd'hui.
Tout en sachant que pour les mètres carrés, le réseau des bibliothèques de Versailles va de 47 mètres carrés à 280 mètres carrés. Ce sont des unités qui sont parfois assez petites.
Alors, pour répondre à votre question, on ne fait pas forcément systématiquement une comparaison avec les autres équipements. C'est pas toujours très très sain. En effet, c'est toujours à la faveur des bibliothèques, puisqu'on sait bien que les bibliothèques publiques touchent plus la population que d'autres équipements. Et puis, contrairement aux bibliothèques, dans les autres équipements, on n'a pas autant de remontées de données, d'informations. Puisque nous, comme on travaille sur tous les champs de la culture, on a beaucoup plus de données chiffrées en bibliothèque qu'ailleurs. Dans les conservatoires, on en a plus en plus, puisqu'ils ont aussi un rapport d'activité très très compliqué à remplir, qui remonte, mais pas d'informations consolidées au plan national. Donc de toute façon, c'est pas le même mode de fonctionnement, et le coût par usager d'un conservatoire est en moyenne de 2 000 euros par usager. On n'aura pas ça en bibliothèque, voilà. Donc c'est vrai que c'est jamais à la faveur des conservatoires, même des musées, et on n'est pas dans cette approche, puisque parfois on est sur des diagnostics culturels globaux, et notre idée n'est pas de comparer, de pas de mettre en concurrence ces équipements. En revanche, puisque vous ouvrez la discussion sur ce sujet-là, moi je vois de plus en plus de collectivités qui comparent, enfin, notamment les DGA Culture comparent au sein de leur collectivité la bibliothèque avec la piscine, par exemple. Et puisque la piscine est un équipement qui est très utilisé, en revanche, très coûteux en fonctionnement. Et j'ai vu ça, c'était à Mayenne ou sur Val-de-France aussi. Bon, ils n'ont toujours pas fait de bibliothèque. Dominique Lahari pourra en parler mieux que moi, mais c'est sur Sarcelles. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait une piscine pour autant. Mais en tout cas, le DGA s'était amusé à calculer le coût de fonctionnement de la future piscine et en parallèle, le coût même de construction. Et c'était bien à l'avantage des équipements de lecture publique. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on compare assez peu... Bon, notre logique n'est pas de faire fermer le conservatoire pour ouvrir une bibliothèque. Voilà, on va assez peu sur ce terrain-là.
Notre politique, hein, aux affaires culturelles, c'est de jouer la complémentarité et de développer vraiment le réseau entre les archives, l'école des beaux-arts, le conservatoire rayonnement régional, le musée, et même au-delà, puisqu'on est à Versailles, donc on a bien sûr l'établissement public qui est juste en face et qui ne draine que 5,7 millions de visiteurs par an.
Je voulais rajouter juste une petite chose par rapport à ça. Votre question est en effet intéressante. Et moi, j'ai eu, comme madame, en effet, des élus qui se posaient la question par rapport à la piscine et qui même faisaient passer la piscine d'abord et la bibliothèque après, dans un deuxième temps, au moins. Mais ce n'est pas le même usage, absolument. Mais juste pour dire que je crois qu'une part de notre image passe par la manière dont nous comptons. Et en effet, je trouve que d'une façon générale, le monde des bibliothèques est assez timoré par rapport au spectacle vivant. spectacle vivant, lui, il compte en spectateur. Nous, on compte en inscrit actif. Donc, quelque part, on se met déjà dans une situation, je dirais, de qualité, etc. Et si le spectacle vivant comptait en termes seulement d'abonnés actifs, voilà, point de suspension. Hein ?
Il peut y avoir des spectacles vivants dans les bibliothèques.
Hein. Oui, ah, tout à fait. Mais moi, mon idée, ce n'est pas du tout la concurrence. Hein. C'est simplement, puisqu'on parle de chiffres aujourd'hui, c'est un point très important qui, moi, m'a toujours frappé. Quand je suis arrivé comme conseiller livre, ça m'a frappé. Ça. On ne comptait pas les fréquentations, on comptait les usagers inscrits, actifs.
C'est vrai que la notion d'usager est à voir dans un ensemble assez large. Quand on avait travaillé sur Grenoble, ils étaient un peu fixés sur leur taux d'inscrits. Oui, mais Grenoble, ça veut dire aussi beaucoup de fréquentants qui ne s'inscrivent pas, donc les usagers invisibles. Ça veut dire aussi beaucoup de collectivités avec lesquelles le service relais lecture travaille énormément. Donc voilà, et là, on ne pouvait plus comparer avec d'autres. Et une collectivité, c'est autant d'usagers derrière que l'on peut compter. Donc voilà, c'est là où le qualitatif ou le chiffre au-delà du chiffre est important. Parce qu'un usager en bibliothèque voilà, ou dans un secteur culturel, c'est quoi ? Ouais.
J'allais dire que pour les établissements qu'on inspecte, il y a quand même un indicateur important, c'est la proportion du budget consacré à la bibliothèque dans le budget culturel de la ville et la proportion du budget culturel de la ville par rapport à son budget global.
Ça, en revanche, on le regarde.
Donc ça, on le regarde chaque fois pour voir à peu près, bon, même si ce n'est pas juste au centime près, parce qu'on ne compte pas forcément la même chose, mais voilà, ça donne une indication quand même assez intéressante.
D'autres questions ?
Dominique Panchèvre de l'Agence pour le livre de Haute-Normandie. Alors, c'est une question que je pose à tous, hein, mais peut-être plus spécialement à Jean-Pierre Bouillet, parce que je connais bien l'étude dont il parle. Nous avons beaucoup entendu parler d'indicateurs, de liens avec les politiques, d'objets de décision, d'outils de décision, etc. Bon. Avec beaucoup de partenariats, de collaborations possibles. Il y a un domaine qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est le partenariat transversal de la chaîne du livre, c'est-à-dire quid dans toutes ces études de l'implantation des structures par rapport à un paysage dont on veut aménager le territoire en général, par rapport à l'implantation, par exemple, d'éditeurs, d'actions de vie littéraire comme des salons, de libraires. Quand on sait les tensions qui existent en ce moment par rapport aux appels d'offres notamment, en librairie, concernant l'acquisition des ouvrages pour les bibliothèques, qui, eux, ne sont pas du tout soumis, de par Bruxelles, à la géolocalisation, au contraire, hein, donc ils sont plutôt à la délocalisation. Je crois que c'est peut-être une question qui peut être intéressante à poser dans le cadre d'études de ce genre. Quand on veut aménager un territoire, qu'on crée des outils d'analyse, d'expertise, et qu'on va très loin, fouiller, que les politiques en veulent, ils en revolent, etc. Est-ce que les politiques aussi pensent que leur territoire, il est complètement dépeuplé d'industries, de commerces, qui sont des commerces qui ont comme une affinité, je dirais, au moins lexicale, mais peut-être de contenu par rapport au livre, s'ils ne font pas attention à ça, ils risquent aussi de perdre quelque chose.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée du distancier nous était venue, par exemple, à partir des petits oursins de la carte communale de l'INSEE qui disent comment les gens se déplacent pour aller à la pharmacie, à la station-service, etc. En effet, on pourrait faire des choses de ce genre. On pourrait aussi, le travail en effet d'observation culturelle dans le domaine du livre qui nous y conduira, établir des couches qui permettent de superposer en effet les implantations de libraires par exemple hein, par rapport à ce qu'on a vu là des cartes départementales. Il y a en effet une vraie stratégie à trouver par rapport à ces implantations, en effet. Oui, oui, tout à fait. Pour répondre à l'un des aspects de ta question sur les élus sont-ils conscients du fait que tout ça opère en synergie sur l'ensemble de l'écosystème du livre, Je n'en suis pas très convaincu. Et justement, ce qui est... C'est, pardon ?
Je suis persuadé du contraire.
Oui. Et moi aussi. C'est important justement de leur donner ou de leur proposer en tout cas des éléments cartographiques, chiffrés, etc. Chacun à notre manière, en fait, de façon à leur mettre, à attirer leur attention sur ces rapprochements.
Oui, d'autant que les urbanistes disent bien que l'aménagement d'un territoire, c'est culture et commerce, en gros. Hein, je veux dire, je fais court, mais c'est oui. ça. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre et transport, oui, et les circulations, bien sûr, entre tout ça, mais s'il y a un déséquilibre, s'il n'y a pas de transport, s'il n'y a pas de commerce, ou enfin, on le voit bien, les villages désaffectés, c'est vraiment cet équilibre sur trois pattes qui est culture, commerce, transport, qui fait que l'aménagement existe plus ou moins bien, mais qu'il existe. Si on ne prend en compte qu'un aménagement culturel, par exemple, ça risque d'être un petit peu délicat, quand même.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Est-ce que quelqu'un souhaite compléter là, sur la table ? Dans les intervenants, est-ce que quelqu'un souhaite compléter la réponse ?
Oui, non, pour la place des bibliothèques dans la chaîne du livre, dont je trouve personnellement, hein, je suis en fin de carrière, que les bibliothécaires n'en sont pas du tout conscients. Je crois qu'ils sont dans leur domaine. Voilà. Je reviens de deux inspections, hein, comme mon collègue vous l'a dit ce matin. Je n'étais pas aux Antilles, j'étais dans l'océan Indien. Et j'ai vu une toute petite île qui s'appelle Mayotte. Et à Mayotte, il y a une bibliothèque départementale de près. Bon, je n'en parlerai pas. Il y a un réseau de bibliothèques municipales, plutôt vivant. Voilà. Et il y a une seule librairie qui est en train de mourir parce que ces bibliothèques ne s'approvisionnent pas chez elles, mais passent des marchés en métropole. Voilà, donc, voilà, vous dire l'inconscience de la chose. Donc, ça veut dire que dans 2 ans, il n'y aura plus de librairie à Mayotte. Voilà, simplement.
C'est un peu le cas en Corse. Hein,
et c'est un petit peu le même cas à La Réunion, dans des proportions plus importantes, où la principale librairie de Saint-Denis est en train de faire faillite, parce qu'évidemment, on achète ailleurs.
Juste pour apporter une nuance, moi je vois les deux cas de figure avec en effet des territoires comme la Corse où en effet les bibliothèques départementales et municipales ne s'approvisionnent pas forcément auprès des librairies. Pourtant il y a des très bonnes librairies à Ajaccio, à Bastia. Et puis à l'inverse, on voit quand même des collectivités qui jouent vraiment le jeu de la chaîne du livre. Donc bon, voilà, c'est pour nuancer un petit peu. Et on voit bien aussi que sur certains territoires, quand la lecture publique est dynamique, la librairie est aussi dynamique. Hein. Je citerai Grenoble encore une fois. Et à l'inverse, comme je citais Sarcelles tout à l'heure, il n'y a pas de librairie sur ce territoire-là. Enfin, quand je dis Sarcelles, et les bibliothèques sont très faibles, on va dire. Il y en a, mais...
Donc, pour continuer sur ce sujet-là, moi, je voulais dire qu'effectivement, je pense qu'il faut nuancer. Il y a des élus qui sont vraiment très conscients de l'intérêt de travailler avec les librairies locales et où on est même quelquefois confronté à des demandes des élus qui veulent précisément qu'on travaille avec telle bibliothèque spécialisée en littérature étrangère dans la ville et où le code des marchés publics fait que c'est pas forcément exactement facile de leur faire un lot qui va être juste bien pour que ce soit cette bibliothèque-là, cette librairie-là qui puisse répondre. Donc là, il y a un problème, je pense, plus général. Enfin, on va pas entamer ce débat-là, c'en est un autre. Pour Mayotte, je ne sais pas, mais pour être allé il n'y a pas très longtemps à un colloque où on évoquait justement les librairies françaises, mais là, à l'étranger. Donc, ce n'était pas tout à fait le même cas. Mais les libraires disaient beaucoup qu'il y avait un problème aussi de coût de transport des livres. Enfin, il y avait des questions qui faisaient que, de fait, les librairies locales étaient complètement défavorisées. Je veux dire, c'était quand bien même les bibliothécaires auraient voulu travailler avec elles. Et toujours dans la même, sur l'interprofession, alors j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup là, je l'ai eu aujourd'hui l'état des lieux qui a été fait là par Livre et Lecture en Bretagne, mais justement je pense que les SRL ont vraiment là un travail à faire sur l'interprofession, parce que je pense que sur les bibliothèques, alors moi je travaillais avant d'être à la BPI dans une région où depuis longtemps les BDP avaient travaillé avec l'ex-agence de coopération puis Livre et Lecture pour agréger les données. Mais sur les bibliothèques, j'allais dire que le terrain est bien balisé. Je crois qu'il faut éviter de refaire ce qui est quand même assez bien fait dans les BDP. Donc, en plus, on va dire que dans l'idéal, le site de l'Observatoire de la lecture publique devrait permettre que le niveau régional soit pris en compte plus facilement, donc sans refaire des enquêtes que les BDP font déjà auprès de leur réseau. Par contre, sur la chaîne l'interprofession du livre, là, il y a vraiment un sujet important à travailler, à mon sens, dans les régions, à moins que
un autre département du service livre et lecture puisse se lancer dans cette opération-là. Mais je pense que c'est vraiment, pour moi, le créneau à prendre, y compris pour sensibiliser les professionnels à l'importance où est-ce qu'on se situe dans la chaîne du livre.
Et puis, j'allais dire des opérations de formation réciproque.
Parce que les bibliothécaires connaissent mal.
Très mal.
Mais l'inverse est tout aussi vrai. Pour avoir travaillé avec des libraires et d'autres bibliothécaires de la région sur un vadémécum justement pour les marchés publics, c'est vrai que certains libraires n'arrivaient pas à comprendre les contraintes dans lesquelles étaient les bibliothécaires. Donc c'est réciproque, je crois. Tout à fait.
Mais si proche, mais on ne se comprend pas bien.
Oui, je peux pas m'empêcher quand même de répondre que c'est en grande partie ce qu'on fait à longueur de temps. Voilà, ça doit pas se voir assez, ou ça n'arrive pas jusqu'à la BPI, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on est tous et sur la question des marchés publics. Une étude est en train d'être menée sous l'égide du ministère avec la FIL, et on fait en sorte de rapprocher, en tout cas, les libraires, les bibliothécaires et toute la chaîne du livre d'une manière générale. Sinon, moi, je voulais dire peut-être autre chose qui m'est venue là en vous entendant tous. C'est vrai que les chiffres qui vont donc être mis d'ici 2015 à large disposition de nous tous, il me semble aussi qu'il y a peut-être, d'ailleurs, ça fait le parallèle avec cette étude qui est menée sous l'égide du ministère, où le ministère, en fait, s'appuie sur les chiffres de la SOFIA, notamment, c'est-à-dire fait une analyse quantitative très poussée de chiffres disponibles et, qui sont moissonnés, rassemblés, etc. Et ce qui a été proposé comme méthodologie, c'est de demander aux régions volontaires d'apporter de la chair à cette étude, c'est-à-dire un aspect... en gros, on a fait des monographies sur des études de cas, avec des interviews qui sont, enfin des entretiens qui sont ensuite qui vont être publiés, et il me semble que ces duos sont intéressants, c'est-à-dire d'avoir d'un côté des chiffres et d'avoir de l'autre côté peut-être une réflexion ensemble, alors avec la FIL, le ministère, la DBGV, l'inspection, enfin sur ce qui pourrait être des études qualitatives, notamment pour apporter des éléments aux élus, parce que c'est vrai que, alors que ce soit du côté des bibliothèques ou même de la chaîne du livre, on a quand même un mode de pensée forcément un peu autocentré, et un élu n'a pas du tout le même mode de pensée. Enfin, je pense que monsieur, qui a très bien exposé la méthodologie de la ville de Versailles, pourra le confirmer, c'est-à-dire que les élus... Enfin, il y a les agriculteurs et puis après, il y a les commissions, il y a le maire qui raisonne aussi bien piscine que bibliothèque, sans faire forcément de différence, mais qui va peut-être raisonner plutôt attractivité, quartier, et qui n'a pas du tout nos modes de filtrage des chiffres, des éléments. Et peut-être qu'on manque, nous aussi, d'approche pour convaincre, aider à convaincre, enfin, chacun à sa place, d'approche méthodologique des publics d'une ville pour alors je pense en voyant par exemple Catherine Canazzi qui fait donc qui est directrice de la BDP de Vaucluse, je me souviens d'un entretien avec l'élu à la culture, vice-président, qui est un monsieur absolument charmant et tout à fait bienveillant et qui s'occupe bien de son territoire difficile pour la culture, et qui me disait avec des trémolos dans la voix, une librairie a ouvert à Cavaillon qui est une ville difficile où il y a une médiathèque formidable, il n'y avait pas de librairie, et qui m'a dit ça a changé la vie des habitants. Je me dis mais ça c'est de la chair, c'est-à-dire c'est un élu qui est capable de témoigner sur pourquoi une librairie ou une médiathèque change la vie des habitants, la rend plus attractive, plus agréable à vivre, comme une piscine. C'est vrai. Et on n'a peut-être pas les bons discours, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à comment accompagner ces chiffres d'arguments décisifs. Alors, ça existe déjà, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais bon, collectivement, en tout cas, on a peut-être une réflexion sur... des témoignages, où sont les témoignages d'élus, par exemple, sur ces questions-là, qui eux-mêmes ont leur propre réseau, ils partagent ensemble, ils ont leur propre mode de décision et de pensée, d'outils de référence. Comme vous dites, ils peuvent pas consulter des milliers de chiffres, mais bon, il y a peut-être d'autres arguments qui feraient mouche auprès d'eux, auxquels on devrait réfléchir ensemble.
Moi, je veux bien Je veux bien juste réagir, alors pas au collectivement, puisque ce n'est pas dans ce cadre-là que je m'inscris, mais en revanche, c'est vrai que ça se fait déjà. Le témoignage d'élus aux élus, il y avait eu un colloque dans le Val d'Oise, Dominique Clary, on parlera encore mieux que moi, où il y avait des élus qui avaient témoigné de leurs expériences, et il y avait des élus dans la salle, donc ça c'était intéressant. C'est vrai qu'en termes d'émulation, je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que d'emmener des élus voir des équipements et voir des villes, dans des collectivités, et c'est vrai que là il y a des témoignages d'élus, notamment quand les élus sont eux-mêmes reçus par des élus. En général, il y a souvent quelque chose qui se passe, un déclic en tout cas, et c'est souvent des expériences qui ont apporté un plus dans les prises de décision après. Oui, parce que moi je parle d'une expérience où on est déjà sollicité, donc en effet il y a déjà un intérêt, c'est sûr.
Moi je voudrais vraiment rebondir sur ce que vous dites, c'est vraiment très important. Alors notamment parce qu'on est confronté de plein fouet à des vraies contraintes budgétaires. Quand vous voyez une ville, on va prendre une ville comme Versailles, 140 métiers différents, 25 directions qui peuvent très bien vivre les unes indépendamment des autres. Et quand on prend la direction des affaires culturelles, c'est 7-8 équipements qui vont de l'université Interage, enfin ce qu'on appelle le temps libre ailleurs, jusqu'à l'école des Beaux-Arts. Et encore, vous voyez, par rapport aux bibliothèques, on est dans des logiques qui sont différentes. Je ne parle même pas des spectacles vivants, le mois Molière en ce moment à Versailles, qui mobilise beaucoup nos équipes des affaires culturelles. Donc le maire, il est face à des choix, des arbitrages, et des arbitrages avec un budget qui est contraint. Il ne peut pas augmenter les impôts éternellement. Et là, il va apprendre une très mauvaise nouvelle. Ils vont apprendre une très mauvaise nouvelle. C'est que tout ce qui est aide de l'État au fonctionnement, ce qu'on appelle la DGF, la dotation générale au fonctionnement, ça va baisser. Donc vous imaginez la difficulté pour un maire qui doit prendre des décisions et qui doit allouer son budget. Il y a des problèmes de sécurité. Est-ce qu'on augmente le nombre de policiers municipaux? Il y a des associations sportives qui veulent encore plus d'équipements, pas uniquement des piscines, mais ils veulent aussi des stades de foot en terrain synthétique. Ils veulent, et je peux vous dire, je m'occupe aussi des sports. Alors, je vois bien, c'est la bataille pour avoir des terrain et derrière c'est des millions des millions d'euros pour réhabiliter ces terrains. Donc un maire, voilà, il doit faire face. Et alors c'est pour ça que c'est très important ce qu'on se dit aujourd'hui, parce qu'il va falloir arriver avec des éléments chiffrés, quantifiés, des vrais arguments pour dire: attendez, la bibliothèque, c'est pas quelque chose qui, finalement, on peut oublier ça pendant 2-3 ans et puis on reprendra éventuellement si tout se passe bien. Il faut vraiment montrer l'impact culturel, parce que, comme vous le disiez, monsieur, c'est vrai, la culture, le commerce, c'est un élément d'attractivité de vie d'une ville, mais aussi d'attractivité dans le sens ça fait venir des touristes. Et c'est de l'activité économique derrière. Donc, à nous d'avoir de bons arguments. Moi, je suis très content de savoir qu'on va avoir des bases de données fiables et entretenues de la part de l'État. Mais au-delà, il faut vraiment expliquer, avoir des arguments pour expliquer que dans une bataille budgétaire, parce que ça sera bien ça, chaque direction, un peu comme chaque ministre va se battre auprès du ministre du budget, il faut continuer à investir sur la lecture, sur les équipements de bibliothèque. C'est pas facile. Je peux dire que c'est vraiment pas facile, et ce que les RGPP font vivre en ce moment au niveau de l'État, dans les collectivités, ça va arriver à vitesse grand V.
J'ai l'impression que le débat, effectivement, s'est orienté vers communiquer pour convaincre, si j'ose dire. Il y a encore une dernière question, peut-être, et parce que je pense que c'est Dominique Clary va nous parler justement de cet aspect important de la collecte des chiffres.
C'est moins une question qu'une réflexion par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Donc Christian Rio de Livre et Lecture en Bretagne. C'est aussi la perception qu'on peut avoir du livre et de la lecture. Je pense que souvent, pour les politiques, mais aussi peut-être pour les citoyens, c'est que le livre et la lecture, c'est une perception d'une activité, je dirais, individuelle, et voire individualiste. Et c'est vrai que on entend beaucoup parler d'action culturelle, etc. Ça donne aussi une autre image, en fait, de ce que peut être le livre et la lecture. C'est-à-dire que ça peut être aussi une activité qui va plus vers le collectif. Et la question du sens est, à mon avis, importante. C'est-à-dire, quel sens on donne à tout ça? C'est-à-dire que, très souvent, on l'a vu quand on a fait cette étude, les gens se disent, ben oui, il faut absolument du livre, il faut de la lecture, etc. Mais pourquoi, en fait, le pourquoi de ça? Et on parlait des piscines tout à l'heure, ou des équipements sportifs, mais je crois que pour chaque citoyen, c'est évident que ce sont des lieux de rassemblement, des lieux où les gens se rencontrent, des lieux où... voilà. Ça n'est peut-être pas aussi évident pour les lieux du livre et de la lecture. Non pas parce que ça n'est pas, ça ne se pratique pas comme ça, mais ça n'est pas forcément évident de le percevoir comme ça. Voilà. Et dans l'étude qu'on a faite, il m'a semblé qu'en interrogeant les uns et les autres, chacun était un petit peu justement... effectivement avec des difficultés à trouver en fait un sens à son activité en répétant il faut du livre, il faut de la lecture, mais point. C'est-à-dire que sans expliquer, sans aller au-delà de ça.
C'est aussi souvent la conclusion des études que le service études et recherche lance pour le compte de l'ex-direction du livre, le service du livre et de la lecture, c'est que les bibliothèques ont quand même un gros problème d'image en fait. Même, oui. Oui, aussi, effectivement, oui. Nous allons donc peut-être, à moins que quelqu'un veuille réagir à cette dernière intervention, oui.
Je voulais simplement ajouter à ce que disait monsieur, je suis complètement d'accord avec lui. Non seulement on considère que c'est une activité individuelle, mais on l'aborde, j'allais dire, au ludique et à l'enrichissement culturel personnel. En fait, elles ont aussi un rôle éducatif, elles ont un rôle social. C'est clair. Donc, il faudrait rajouter, chaque fois décliner ces différentes finalités.
Merci. Merci donc à tous les intervenants et à la salle.